Vous écoutez la seule et unique radio consacrée aux ovnis, aux phénomènes paranormaux, aux complots d'État, aux manipulations gouvernementales, aux sociétés secrètes, aux mystères des pyramides, aux scandales alimentaires, aux médicales. BTLV, 24 heures sur 24, sans pub.
Nous sommes là, bonjour à tous et à tous. Non, ce n'est pas la voix de Bob, vous avez bien remarqué, vous avez une sacrée oreille quand même. C'est Yves Carras, salut Mathieu.
Hello Yves, salut tout le monde.
Et oui, parce que j'avais déjà enregistré l'été dernier, et l'été dernier c'est loin ça déjà, vous savez, avant les vacances, fin juillet, une première partie avec Richard Glenn sur un sujet, si la Terre était comme un jardin organisé par des extraterrestres. Comme c'est en deux parties, je vais faire la deuxième partie, voilà, tout simplement.
Allez. Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Il est là. Salut Richard.
Eh oui, bonjour Yves. Eh bien oui, à l'autre bout de l'Atlantique. Et évidemment, ici aussi, l'été est à peu près passé. Et puis les vacances sont passées aussi.
Ouais, mais les vacances, quand on fait ce qu'on aime, c'est toute l'année en fait.
Exactement. D'ailleurs, quand je dis que ça fait 40 ans, toutes les semaines que je produis des émissions d'ésotérisme expérimental d'ici au Québec, eh bien oui, je n'ai pas arrêté, je n'arrête jamais, sauf qu'à l'occasion, on se permet de mettre un peu comme Bob a fait cet été avec BTLV, des reprises des meilleurs moments de la saison passée.
Mais oui, parce qu'on le dit souvent, tu sais, parmi les centaines, les milliers d'heures que l'on a, c'est vrai que ceux qui nous écoutent actuellement peuvent avoir raté des émissions qui sont des vraies perles, des choses qui peuvent vraiment les intéresser particulièrement. Donc c'est bien qu'on les ressorte un petit peu des archives. Tu sais, c'est un peu comme ces musées qui ont des trésors en permanence dans leur sous-sol, mais qui ne peuvent pas tout exposer. Nous, on est un peu comme ça, on ressort les œuvres et on les met aux oreilles du public, si tu veux, en permanence, quoi.
Exactement. Et pour les gens qui voulaient enregistrer, aller enregistrer ce qui s'est présenté durant l'été, c'était vraiment des meilleurs moments, les plus chauds. Et parfois, on fait des émissions qui sont proches de l'actualité et avec l'actualité qui avance, c'est un peu démodé. Alors que là, au cours de l'été, c'est vraiment là, intemporel, c'est essentiel.
Oui, tout à fait. Alors Richard, on avait enregistré fin juillet une émission avec comme sujet « Et si la Terre était comme un jardin organisé par des extraterrestres ?» On avait commencé à parler, alors moi je t'avais dit, tu t'en souviens, je doute un peu, j'étais un peu sceptique. Alors on était rentré dans un jeu pour essayer de me faire, sinon changer d'avis, en tout cas commencer à douter. Et puis au bout d'une heure, on n'était pas du tout au bout du sujet, on s'est dit « Allez, à la fin août, on réenregistre une émission, une sorte de deuxième partie, avec un aspect un peu plus ésotérique. » Alors vous qui nous écoutez, vous avez une première partie en podcast que vous pouvez retrouver, Richard Glenn sur ce sujet, si la Terre était comme un jardin organisé par des extraterrestres. Et là, Richard, on a la suite.
Oui, la suite qu'on pourrait intituler aussi « Question de vie ou de mort ». Puisque le jardinier qui s'occupe de son jardin peut très bien décider de couper des plantes, déraciner des plants, les transporter ailleurs, les déplacer. Et tu m'as fait rêver avec ton épouse qui est à l'île de Léron, qui a son propre jardin, et là, le jardin doit donner ses fruits, non?
Oui, tout à fait, mais encore une fois, tu vois, ça correspond un petit peu à ce qu'on dit. Elle se bagarre beaucoup pour mettre des plantes qui ne correspondent pas à l'ensoleillement et au sol qui est très sablonneux. Et je lui dis, depuis 4-5 ans, je dis, te bats pas parce que la nature, de toute façon, ne gagnera pas. Tu ne gagneras pas contre la nature du sol. Donc, tout ce qu'elle met qui n'est pas du coin, meurt. Et puis, elle a commencé finalement à faire un jardin local et là, ça fonctionne, quoi. Faut pas aller contre la nature.
Exactement, mais la nature est à différents niveaux, et puis là, je pourrais la conseiller dans le sens de le jardin de Finhorn en Angleterre, dans un endroit sablonneux sur le bord de la mer, avec même de l'eau salée à l'occasion, et les plantes ont très très bien poussé parce que les jardiniers ont communiqué avec les devas des plantes, les devas de la nature.
Oui, on a fait une émission, je crois, là-dessus, sur ce village absolument incroyable.
Oui, c'est ça. Alors, si elle avait les capacités de communiquer avec les êtres de la nature, elle pourrait réussir à faire pousser n'importe quoi, n'importe où, par amour.
Oui, mais moi, je suis très jaloux, alors je ne veux pas qu'elle communique avec n'importe qui, tu vois. Elle a déjà une belle plante à la maison, elle va pas en chercher d'autres non plus.
Alors, remarque, justement, on aborde le sujet du phénomène extraterrestre. Quand on dit extraterrestre, on pense toujours aux ufonautes, ceux qui sont comme des astronautes ou des cosmonautes qui viennent en soucoupe volante, ufonautes, UFO. Ben oui, mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a aussi des intraterrestres, des êtres qu'on appelait en Orient, les Asuras. des êtres intraterrestres qui vivent dans la nature de la Terre même. On les appelait aussi les anges déchus, chassés dans les entrailles de la Terre, dans la tradition chrétienne. Les djinns aussi, les gnomes, les farfadets, les licornes, tous ces personnages. J'espère que je parle suffisamment clairement pour que les Français me comprennent.
Ça va.
Un accent, mais...
On est habitué à ton accent maintenant.
Ben, merci beaucoup. J'essaie de... Je ne veux pas changer mon langage pour être artificiel. Hein. J'aime bien demeurer avec la couleur locale, malgré tout. Et ça fait partie justement de la réalité de l'humain. Et les extraterrestres qui nous visitent eux-mêmes ont des origines différentes et des capacités ou des propriétés particulières. On sait qu'il y a des extraterrestres de différents mondes, de différentes réalités. Je t'en passe rapidement comme ça. Mm-hmm. Des petits, qu'on appelle les petits gris, viennent de la constellation du Reticuli. Il y a les êtres aussi d'Andromède. Alors ça, c'est moins d'un mètre. Après ça, des êtres moyens de grandeur, d'un mètre 60 à 2 mètres 50, des êtres de la planète Yarga, les Lyriens, les Végans, les Dalles, les Pléidiens, les Pléiadiens, c'est-à-dire, oui, ceux d'Alpha du Centaure, les Procyons, puis il y a les êtres d'Orion. Puis il y a les grands. Ouais. Alors, ceux-là qui sont encore plus grands, ben, tu sais, il y a Corrado Malanga. Vous en avez parlé, moi je vais essayer de le contacter. Je ne sais pas, je pense pas qu'il parle français. C'est un Italien. Et il a étudié beaucoup les contactés. Et il a découvert qu'effectivement, ces êtres se permettent toutes sortes de comportements avec l'être humain. Qui sont-ils? Ils peuvent nous jouer complètement en théâtre et nous faire croire qu'ils viennent du confin de l'univers alors qu'ils sont tout simplement des voisins d'en dessous, qui vivent du sous-sol de la planète et qui peuvent abuser de l'être humain de différentes façons, parce qu'un peu comme un adulte peut abuser d'un enfant facilement en lui faisant croire un jeu de marionnette devant les yeux, puis l'enfant va prendre la marionnette pour des êtres réels. On sait que par le mimétisme, les enfants vont copier le comportement de personnages télévisés qui sont des bonhommes, c'est rien de réel. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on est encore à ce niveau de se faire mesmériser, de se faire hypnotiser? Malheureusement, oui, l'humanité est piégée. Alors, regardez l'effet des sportifs, des vedettes de cinéma qui ont un ascendant instantané sur la population, bien souvent. Il suffit qu'un héros de soccer, de foot se présente à un endroit, puis tout le monde court, tout le monde devient hystérique. Alors, le phénomène extraterrestre fait que les autorités de notre monde veulent le retarder le plus longtemps possible, parce que le jour où il y aura la révélation de ces êtres dont les capacités dépassent nos capacités, autant physiques, psychologiques, matérielles, technologiques, alors on doit se prémunir, on doit se préparer de toute façon à cette intervention qui est faite déjà depuis la nuit des temps. C'est pas d'aujourd'hui que les êtres viennent. Si je te fais un parallèle entre ce qu'on appelait les dieux. Bon, ben alors les dieux de Nibiru, les Niburiens, là, il y avait Anu, Antu, Ishkur. On pourrait les comparer, ces mêmes dieux-là, avec des dieux égyptiens, grecs, romains, indiens, mayas, incas, celtes, parce que ce sont des êtres qui ont pris des propriétés, des ascendants même sur notre humanité. Quand on disait que les dieux vivaient sur le sommet des montagnes, comme le mont Olympe, entre autres, là, puis en général, c'est surtout les plateaux des Andes au Pérou, toujours sur des montagnes très très hautes, se tenaient les dieux. Actuellement, je ne sais pas si chez vous, en Europe, c'est un peu la même chose. Ici, au Québec, on remarque que les autorités de notre monde, de notre politique, achètent leurs maisons sur le sommet des montagnes, que ce soit le Mont-Royal à Montréal ou des régions plus élevées. Alors, plus tu montes dans la société en hiérarchie, en qualité, en compétences et en puissance, plus on dirait les gens ont une tendance à vouloir acheter des demeures sur les hauteurs.
Mais tu sais, dans une entreprise, quand il y a un bâtiment, souvent la direction est au dernier étage, hein?
Ben oui, justement.
Pour dominer tout ça, la situation, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, ces êtres qui viennent donc d'encore plus haut, puisqu'ils viennent d'au-delà de nos montagnes, ils viennent du cosmos et qui descendraient vers la Terre, déjà, on a l'impression que ce sont vraiment des êtres de très haute capacité. Alors, on doit d'abord se dire qu'il y a réellement une hiérarchie dans l'univers. On n'y échappe pas. La hiérarchie, on pourrait dire qu'elle est dans la nature. Hein, le minéral, ben, c'est ce qui est au sol, qui est le plus à terre. Sort du sol, les végétaux. Les végétaux se nourrissent de quoi? Des minéraux. Ensuite, les animaux se nourrissent de quoi? Des végétaux et de d'autres animaux, évidemment. Et des animaux, l'être humain qui est au-dessus des animaux, l'être humain se nourrit des animaux, des végétaux. Mm-hmm. On comprend qu'il y a une hiérarchie de domination qui fait que l'être supérieur profite de l'être inférieur en l'absorbant, en le dévorant. Mm-hmm. Alors, au-dessus de l'être humain, qu'y a-t-il? Ce que moi j'appelle les êtres cosmicus, là, les extraterrestres ou les êtres... On parlait des sapiens, sapiens, sapiens. Maintenant, on s'en va de l'homo sapiens à l'homo cosmicus.
Homo cosmicus. Ben
oui, ouais, c'est ça. Et ces êtres qui viennent donc au-dessus de l'être humain, on doit le comprendre, qui viennent nous dévorer, qui viennent se servir de nous comme nourriture. Ah, c'est abominable, oui.
Ben, c'est pas, c'est pas très sympa comme idée, oui.
Ben, c'est pas sympa dans le sens que on ne doit pas comprendre qu'ils viennent nous dévorer, manger notre viande. Ils pourraient sauter sur un bœuf, il y a plus de viande sur un bœuf que sur un être humain. C'est chico, un être humain comparé à un bœuf. Alors, c'est pas la viande qui les intéresse, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. Mm-hmm. C'est ce que d'autres appelleront l'âme. Leo Sprinkle, qui est un professeur d'université au Wyoming que j'ai rencontré au début des années 90, il m'avait parlé de son projet d'écrire un livre qu'il a publié déjà depuis. S'intitule « Les catchers, faux catchers, les voleurs d'âmes ». Mm-hmm. Et ça, c'est ce qui intéresse. Alors là, on reconnaît le langage un peu de certaines religions qui disent « Protégez votre âme, faites attention de ne pas perdre votre âme, de ne pas vendre votre âme, de ne pas donner votre âme au diable. »
C'est beaucoup dans la culture asiatique, ça. Hein?
Oui,
indienne, asiatique, tout à fait.
Oui, bien, c'est qu'il y a probablement un fond de vérité, et comme je viens de l'exposer, de hiérarchie en hiérarchie, l'être supérieur se nourrit des êtres inférieurs. On est encore, nous, prisonniers de la planète Terre, un peu comme une plante est prisonnière de son pot de fleurs ou de son jardin. Elle n'a pas de jambes pour s'échapper puis courir. Une plante est plantée dans la Terre, elle ne peut pas se déplacer. L'être humain a le sentiment de se déplacer un peu en altitude avec quelques bombes puces, avec des fusées. Mais il est encore prisonnier de son jardin, de la planète. Et il y a des êtres qui, eux, semblent beaucoup plus libres, un peu comme les jardiniers qui viennent chercher, cueillir des êtres au niveau de l'âme, au niveau de ce qui est vital, autant pour nous que pour eux, probablement. Mm-hmm. Alors, c'est pénible de se rendre compte de ça. Et justement, Corrado Malanga, dont je parlais tantôt, il est convaincu, puis il vit, lui, à l'ombre du Vatican, à côté du pape, là. Et il est très imbu de pensée chrétienne, catholique. Il est convaincu que ces êtres-là, ce sont des démons.
Ah oui.
Ils sont tous mauvais, oui. Alors, toujours en restant dans la métaphore de l'être humain dans le jardin de la planète Terre, qu'on appelait autrefois d'ailleurs le jardin d'Éden.
Ça, oui, c'est vrai, le jardin d'Éden, tout à fait, oui.
Oui, c'était notre première rencontre, on en avait beaucoup parlé. Et là, maintenant, on doit passer à une autre étape. Quand ces êtres se permettent de venir faire des mutilations du bétail, comme on a vu beaucoup ici dans l'Ouest canadien et américain, ils soulèvent un bœuf, ils lèvent, ils l'amènent dans un ovni, ils vont charcuter l'animal juste au niveau de l'anus, au niveau des lèvres, ils vont faire de manière très, très chirurgicale des ponctions, et après, ils laissent tomber l'animal sur le terrain. Là. Il y a des côtes cassées, il y a des... Ils ont tous les droits, c'est à croire. Il y a des contactés qui reviennent en nous disant, sous l'effet du choc de leur contact, ils n'ont pas tellement aimé être manipulés, tripotés par ces êtres-là. Ils disent, ouais, mais une minute, là, on était hystériques tellement, on était choqués. Whitley Strieber, que je connais, qui a été amené à bord d'une soucoupe volante, bon, on lui a rentré un instrument dans l'anus, on lui a fait un prélèvement de sperme. Il se débattait et c'est une insulte suprême à la nature, à l'être humain. Ben, encore face à ça, mm-hmm. il va crier, de quel droit et des contactés qui reviennent en disant qu'il y a des extraterrestres qui viennent s'approcher de notre visage, qui nous regardent à quelques centimètres des yeux, pour nous dire en pleine face, on a tous les droits.
Ouais, ça, c'est pas rassurant, ouais. Et c'est vrai qu'on a cette vision-là nous donne l'impression qu'on est un peu comme dans un zoo, et puis qu'ils nous étudient et que on est leur jardin, qu'on fait partie des petits êtres de leur jardin. C'est pas rassurant, mais c'est vrai, ouais, que chaque fois qu'une technologie supérieure était maîtrisée par des êtres et qu'ils ont été ailleurs que sur leur terre, ça s'est jamais bien passé pour ceux qui recevaient ces personnes avec une technologie supérieure. Hein, les Européens, quand on est allé en Amérique du Sud ou autre, enfin bon, c'est s'ils sont dans le même état d'esprit, c'est pas rassurant, quoi.
C'est ça, tu penses à Cortez, là, puis à tous les autres.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, c'est ça, Stephen Hawking, il n'y a pas tellement longtemps, disait qu'il faut faire attention de ne pas envoyer des signaux dans l'espace parce qu'ils pourraient être captés par des civilisations qui viendraient nous rendre visite. Et à ce moment-là, leur intrusion dans notre monde risquerait de nous bouleverser totalement et peut-être qu'ils seraient agressifs. Et même s'ils ne sont pas agressifs, le simple fait de se présenter viendrait de bousculer complètement toutes nos valeurs. Et à partir de demain, les gens arrêteraient de travailler en disant « Ces êtres-là ont les solutions pour nos maladies. Ces êtres-là vont nous fournir l'énergie libre gratuitement et c'est fini d'aller travailler, d'être esclave dans le système. Ça bousculerait tout le monde. » Et curieusement, parce que là, il vient de recevoir l'aide financière d'un Russe, Monsieur Stephen Hawking a changé sa veste de côté. Et maintenant, il dit, oui, c'est bon, on va les appeler. Il est plus que temps qu'ils interviennent parce que là, on est en train de détruire, de s'auto-détruire notre pollution, notre exploitation des ressources naturelles. On a besoin de retour des parents qui vont venir nous dire, wow, à un instant, là, vous allez prendre un peu de sérieux parce que vous êtes en train d'auto-détruire, un peu comme le poisson rouge. Si on ne change pas l'eau du bocal, le poisson rouge est en train de s'auto-polluer par ses excréments dans le bocal. Le poisson rouge, on a beau le nourrir, il y a beau mais à un moment donné, ça prend l'intervention de l'extérieur qui va venir nettoyer le bocal, nettoyer l'eau, puis changer l'eau. Et on parle justement d'une intervention imminente. Hein? On en parle déjà depuis 50 ans. Là. Oui, mais j'ai eu des contacts avec le groupe qui a publié le fameux collectif, là, le livre OVNI et conscience.
Oui, on en a parlé sur l'antenne, magnifique. Ouais.
Ah, magnifique. Et on m'a fait comprendre, justement, un peu, je suis en train de perdre le fil de mon idée, que ces êtres-là, de notre dimension, sont très aptes à venir jouer chez nous, les sauveurs. On les attend, on se met à genoux. Alors là, on tombe dans la fameuse notion de la hiérarchie sociale. À ce niveau-là, on sait que l'être humain a débuté comme étant cueilleur-chasseur. On se souviendra des temps primitifs. Là, on cueillait des fruits, des petits fruits sauvages, puis on allait à la chasse. Donc, il fallait suivre les troupeaux des animaux sauvages. Alors, on était nomades. On se déplaçait tout le temps. Mm-hmm. Jusqu'au jour où on a commencé à rester sur place avec l'agriculture et on élevait un troupeau d'animaux faciles à garder dans un enclos. Et puis, finalement, on est devenu sédentaire. Du moment où on est sédentaire, on reste sur place et là, hop, va se créer une nouvelle forme de hiérarchie. La hiérarchie du début, c'était une hiérarchie des plus forts, des plus rapides, des plus aguerris à lancer une flèche ou une lance, puis être capable de frapper la cible en mouvement. Mais arrive le sédentaire qui, lui, on n'a plus besoin des plus rapides puis des plus forts. Ça peut être les plus intelligents, les plus ingénieux, c'est qu'ils vont être capables de patenter des choses. Et à un moment donné, on change de mode de civilisation ou de société. Arrivera donc l'étape de la société pyramidale, qui est un peu de la théocratie. Théocratie, c'est l'idée qu'au-dessus de l'être humain, il y a Dieu.
Théos, ouais. Dieu, théos, théos. Démocratie, théocratie, ouais, tout ça, ce sont les mêmes racines. Ouais, tout à fait.
Ouais. Alors la théocratie est au sommet total. Et ça, on comprend bien que la théocratie veut qu'il y ait un Dieu, une autorité. Et l'autorité d'en dessous, chez les humains, qui représenterait Dieu chez les humains, c'était le pharaon, le roi divin, avec des pouvoirs divins,
et
le roi aussi. Et alors on était dans la monarchie. Et ensuite, Sheila risque des fois d'avoir un chef qui a toutes les autorités, et avec la nature humaine qui a encore dans ses gènes à se battre contre des animaux féroces, à éliminer l'ennemi, à éliminer ce qu'il ne connaît pas Et bon, alors il va devenir tyran. Donc, du monarchie devient tyran. Et de la tyrannie, ben, il y a des gens autour qui vont dire, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, on est en train de laisser un fou détruire. Alors, il va y avoir une aristocratie qui va se tenir autour du chef pour essayer de l'enjôler. Et graduellement, ça deviendra l'aristocratie qui va dominer et le tyran va être abattu, souvent tué. Ça s'est fait chez les Romains. Là. Mm-hmm. Ouais, les Césars, il y en a plusieurs qui ont passé par le...
Alexandre le Grand, César, ouais, ils sont tous un peu passés par les armes des gens de confiance qui étaient autour d'eux, et même par son fils, on se souvient de César, Brutus, toi aussi mon fils qui l'a poignardé, enfin, c'est vrai que c'était assez sanglant à l'époque. Oui,
ouais, bonne idée, très bon exemple. Et là, de l'aristocratie, on va parler d'oligarchie. Un oligarque, c'est un petit groupe de gens qui ont, comme une mafia. Ils se sont arrangés entre eux, un peu comme on se trouve présentement en Russie, avec Poutine et sa petite clique.
Ouais,
et ça a éliminé toute la compétition, tous ceux qui voudraient, il n'y a jamais d'élection démocratique en Russie. C'est la même clique qui s'entretient entre eux. Là. Alors ça devient une forme de tyrannie, mais pas d'un individu du haut d'une pyramide, parce que là, la pyramide descend graduellement. Là. Et là, c'est de l'oligarchie. Et les oligarques, bon, ben à un moment donné, ils vont être rejetés par des mouvements populaires. La population au complet va dire on n'a plus besoin de ça, on arrive avec la démocratie. Alors c'est Demos, c'est le peuple. Alors on arrive donc dans cette fameuse société humaine. Vous allez voir où je m'en vais avec ça, parce qu'on approche du phénomène extraterrestre par quelque chose d'étonnant. C'est que la démocratie qui veut que tout le monde soit semblable, tout le monde égal, tout le monde a un droit de vote égal, qu'il soit intelligent, qu'il soit con, qu'il soit quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc qui a beaucoup appris sur d'autres pays, et l'autre qui a resté sur sa galerie, sur son petit terrain, on égalise par le nivellement par le bas. Ce qui est très, très dommage. Alors, on va arriver dans ce qu'on appelle l'oclocratie. Tout ça, ce sont des grands, grands termes. Ça s'appelle l'anacyclose. Anacyclose, cycle. Ça veut dire que tout est cyclique. Et en partant de la monarchie du début, vous avez vu monarchie, tyrannie, aristocratie, oligarchie, démocratie, oclocratie. L'oclocratie, c'est un peuple en folie. C'est un peuple un peu comme on a connu les années folles avant la Deuxième Guerre mondiale, je me souviens, de Charleston et tout ça, là, mais c'était les années folles. Il n'y avait plus personne qui savait qu'est-ce qui se passait. Adolphe est en train d'organiser son échiquier pour gagner, et il a failli gagner. Il a failli changer, bouleverser l'état du monde. Bon, ben, alors on est dans une période actuelle qui ressemble beaucoup à ça. Vous les regardez, ils sont un jour blancs, un jour noirs, un jour ils sont en faveur d'eux, le lendemain ils sont contre, ils attaquent. Saddam Hussein était un agent de CIA qui travaillait pour les Américains, le lendemain on l'attaque, on le fait passer en tribunal, on le tue, et autour de ça, ben l'Irak est à feu et à sang depuis cette époque où on a éliminé un tyran, comme on disait, oui. La Libye, la France était une des premières à aller contre Kadhafi. Ben oui, et puis là, autrefois, en Libye, c'était l'école était gratuite, l'hôpital était gratuit, les gens étaient, puis ils aimaient bien leur soi-disant tyran. C'est sûr que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a plutôt des zones de gris. Mais vaut mieux des fois garder un mal qu'on connaît que de l'éliminer en ne sachant pas qu'est-ce qui va le remplacer.
Bah oui, c'est-à-dire couper la tête, effectivement, sans savoir ce qu'on peut y mettre à la place, ça provoque des déséquilibres, et c'est ce sont les conséquences de ce qu'on vit actuellement, oui, tout à fait.
Et on appellera ça comment, Yves? On appelle ça le chaos. Et la chaoscratie. Chaoscratie, c'est incroyable, mais on est rendu dans le chaos. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait plus confiance aux autorités. Je ne sais pas chez vous si en France c'est le cas, mais ici au Québec, ça a été fait. On demande à la population si ils croient ou ils portent beaucoup crédit à qui, à quel réseau. Ben, les gens vont dire non, on ne croit plus les politiciens, oubliez ça. On ne croit plus les journalistes, les médias, que souvent des gens appellent les merdias, transmettent tous la même salade à tout le monde pour des intérêts. Bob s'est fait mettre dehors d'une station de radio à Paris parce qu'il dénonçait des choses, mais cette station avait besoin de l'argent des commanditaires.
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Ben, c'est ça. Alors, on voit bien que arrive l'époque du chaos. Les gens vont continuer à écouter la radio où il y avait Bob, et Bob a été obligé de s'expatrier et de se créer un nouveau organe de communication. Mais qui va le suivre jusque-là? Il faut que ce soit des gens qui étaient déjà ouverts, allumés, intéressés, et qui vont comprendre qu'il faut maintenant se brancher ailleurs, parce que si on reste sur l'autre station, ben on reste dans l'endoctrinement, dans la croyance que c'est comme ça. Et malheureusement, dans la population, ça a été prouvé. Quand c'est diffusé dans des réseaux officiels d'État, à la radio ou à la télévision, quelqu'un avec une cravate et puis un beau veston qui va parler, on l'écoute parce que c'est vrai. Et celui qui est marginal dans une station sur Internet ou qui fait des choses marginales, ah oh non, ça c'est un illuminé, ça c'est quelqu'un qui a des opinions. On a le droit à nos opinions, mais ça n'est pas officiel. Pour que ce soit vrai, il faut que ce soit officiel.
Mmh, ouais. Mais tu sais, la liberté a un coût, la liberté a un prix, hein, quelle qu'elle soit. C'est vrai que, imaginons qu'on est dans un zoo, on est nourri, on est logé, mais on n'a pas de liberté. Il y en a qui peuvent s'en contenter, d'autres qui essaient de s'en échapper. Tu sais, si on parle de la liberté de la presse, si tu prends l'exemple d'un magazine, d'un journal, Libération, hein, qui existe encore, qui a été créé en 73 avec Jean-Paul Sartre et Serge Julli, suite aux événements de 68, leur idée maîtresse, qui était vraiment novatrice à l'époque, c'était tout le monde était sur le même pied d'égalité au niveau salaire et dans la hiérarchie de la rédaction. Et surtout, c'était liberté totale d'information. Eh bien, tu sais, quelques années après, ils ont eu des gros soucis financiers et même sociaux. Ils ont fermé en 81, je crois, 8 ans après. Ils ont rouvert. Ils existent encore. Ils ont encore des soucis pour des problèmes de problèmes généraux liés à la presse. Mais tu vois, la liberté a toujours un coût et elle peut être sociale, elle peut être financier ce coût. Mais c'est vrai que quand tu sors la tête du rang, ben on essaie de te la couper et c'est difficile de respirer. Tu sais, c'est, imaginons une moto qui roulerait à 200 à l'heure, tu vois. Tu sors la tête du carénage, t'as du mal à respirer. Ben, il y a un mouvement général comme ça de population, de foule médiatique. Et si tu veux respirer ailleurs, ben, tu risques de suffoquer. Ça, j'espère que je me suis bien fait comprendre avec cette image, hein, qui était.
Ah, j'adore. Et c'est ça que j'aime bien de tes interventions parce que t'as une vision et t'as une perception que j'oserais dire ésotérique, un peu à la manière que nous le faisons, nous. On va chercher dans la réalité, dans les choses, on fait des liens avec tout. Tout est interrelié.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, puisqu'on parle des systèmes de la société, on est à parler du chaos présentement. Et il y a un Américain, celui qui a créé la carte Visa. Mm-hmm. Avez-vous les cartes Visa chez vous?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, alors, il s'appelle Dee Hawk. Et Dee Hawk, qui est le créateur de la carte Visa, qui est à la fois une carte de crédit, mais qui est aussi une carte de débit, mm-hmm. hein, qui est aussi une carte qu'on appelle prépayée. C'est-à-dire que tu donnes un montant d'argent, on te donne une carte qui va passer dans les machines à cartes et qui vont déduire tout le temps de sur la carte les montants que tu vas dépenser. Alors, ce fameux Visa de Dee Hawk, c'est lui qui a inventé un mot qui est utilisé maintenant, qui s'appelle le système chaordique.
Mm-hmm, je connais pas ça.
Qui vient de chaos et de ordre. Alors, si Mathieu va fouiller sur Internet, puis je tiens à le répéter, vous savez que tout ce qu'on fait ensemble avec Richard Glenn est toujours accompagné du complément surprenant. C'est-à-dire que notre ami Gilles Surprenant, ici au Québec, mm-hmm. rajoute, au moment de la diffusion, il est préparé, et au moment de la diffusion de la première diffusion qu'on fait, là, chez vous, à BTLV, mm-hmm. tout ce que je dis est appuyé par des textes, par des images, par des graphiques qui sont, et Mathieu, on s'est parlé juste avant notre entretien, il dit, oui, je manquerai pas de le mettre, le lien. Alors, c'est sur un lien qui est sur notre site Ésotérisme Expérimental sur Internet. Et ça va vous permettre de tout retrouver, des détails de tout ce que j'avance. Alors, le système chaordique s'écrit, évidemment, comme le mot chaos, C-H-A-O-R-D-I-Q-E. Chaos, ordre. Alors, vous voyez qu'il y a un autre mot qui est caché dans le mot chaordique. C'est le chaos et l'ordre. Chaordique. Mm-hmm. Du chaos, passons du chaos à l'ordre. Et le mot lui est venu en expliquant à la population, puis dans des conférences, dans des congrès où il participait, Dee Hawk, le créateur de la carte Visa, que la carte Visa, qui est une carte de crédit au départ, mais le crédit, ça va permettre d'avoir un coup de pouce pour pour te lancer une entreprise, pour faire une dépense de quelque chose d'urgent, parce que tu n'as pas l'argent, on te prête, on te fait un crédit. Il est arrivé plus tard avec la carte de débit. C'est-à-dire, on ne te prêtera pas de l'argent parce qu'on va te soutirer des intérêts. On va prendre juste un petit montant pour le fonctionnement de ta carte de débit, mais ça va te permettre d'aller chercher ton argent dans un compte de banque n'importe où sur la planète avec une carte de débit, et tu es sûr de jamais devoir des intérêts qui s'accumulent puisque tu as déjà l'argent. C'est une carte de débit de ton propre compte. Et la carte prépayée, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu mets un montant d'argent au moment où tu vas avoir une carte. Et là, ben, quelqu'un qui volerait ta carte, il ne saurait pas ton mot de passe, il ne saurait pas comment s'en servir. Alors, c'est mieux que de l'argent liquide sur toi, dans le fond, une carte de prépayée. Mm-hmm. Alors, l'IA qui explique que la carte qu'il avait créée, lui, au départ, c'était pour aider l'humanité, alors qu'il y en a qui se sont enlisés dans les dettes. Alors, la carte est devenue une cause de chaos dans la vie de beaucoup de gens. Mais il dit, il faut sortir du chaos et arriver à l'ordre chaotique. C'est de là qu'il a créé le mot chaotique. Et le système chaotique, c'est un nouveau système dans notre société. D'abord, les Orientaux parlent du Tao. On parlait tantôt de la théocratie, Dieu au sommet. Et pour les Orientaux, le Tao, tu connais le fameux symbole yin-yang, là, ouais, les deux vagues. Bon, alors le Tao, c'est quoi le Tao? Le Tao, c'est la fin et le début, c'est-à-dire le oméga et l'alpha. L'alpha et l'oméga, comme dirait le Christ autrefois, je suis l'alpha et l'oméga. À la fin et au début d'un nouveau cycle, on passe par le Tao. Le Tao, c'est le rien. Il n'y a plus rien, c'est le Tao, l'état de Tao. Et c'est curieux parce que on comprend qu'on passe à un nouveau niveau de conscience, de fonctionnement, quand on passe par le Tao. T-A-O. Alors, dans le Tao Te Ching, c'est le livre écrit par Confucius là, qui explique en détail le Tao. Et pour le comprendre, on peut prendre l'exemple des couleurs, le spectre. Commençons par le rouge. Bon, le rouge, mais même allons plus bas que le rouge. Le rouge vin, un rouge foncé, là, un rouge... Et,
rouge pourpre.
Rouge pourpre, oui, puis même... qui contient même presque un peu de bleu, mais c'est très sombre. Et là, tu t'en vas lentement vers le orange vers le jaune vers un jaune verdâtre qui se mène vers le vert, du vert, on glisse vers le vert bleuté, le bleu, 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 qui deviendra foncé, et un bleu foncé qui va devenir un bleu...
bleu nuit.
Bleu nuit, oui, c'est ça, indigo, comme les jeans, là. Alors du indigo, on s'en va vers le violet, le mauve. Le mauve, c'est un retour de bleu avec un peu plus de rouge. Et du mauve, on retombe vers le rouge. Alors on réalise qu'on peut faire avec le spectre des couleurs un cercle complet. On part du rouge, on fait le tour, on passe par les couleurs que j'ai mentionnées, jaune, vert, bleu. Et on revient vers le rouge avec l'indigo et puis le mauve, le violet. Alors on réalise qu'on fait le tour et ça finit pas, ça finit jamais. Sauf que pour un physicien, il sait très bien que quand tu es rendu dans le rouge, tu es rendu dans des longueurs d'onde très basses. Et quand tu arrives dans le bleu, tu es dans des longueurs d'onde très rapides. D'ailleurs, on va parler du violet et de l'ultraviolet qu'on ne voit pas avec les yeux. Mais c'est vraiment parce que c'est des longueurs d'onde extrêmement rapides. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on est parti d'une longueur d'onde très lente, très basse, pour arriver à une longueur d'onde extrêmement rapide. Et là, on retombe, mystérieusement, sans trop comprendre comment ça se fait. Nos yeux nous jouent un tour. On passe des longueurs d'onde très rapides, ultraviolettes, mais on ne les voit pas, mais violets, pour arriver dans du bleu, violet, vers le rouge. Et on revient dans le rouge. Et le rouge, pourtant, est bas. C'est un peu comme les notes de la gamme, là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, 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 do. Alors, on réalise que, tiens, on passe d'un octave à l'autre octave.
Mais on reste sur la même gamme, oui, tout à fait.
Voilà. Alors, le Tao, là, pour revenir à l'idée du Tao, c'est le moment où on passe d'un octave à l'autre. C'est le moment où tu passes d'une longueur d'onde extrêmement rapide, qui est un bleu violacé, pour retomber à un rouge foncé. Et donc, on est passé d'un bout du spectre à l'autre extrémité du spectre. De l'alpha à l'oméga, de l'oméga à l'alpha. Et cette zone-là, c'est la zone de Tao.
La zone de Tao. Ah ouais, ok.
Je ne sais pas si je me suis fait bien.
Zone de Tao, zone de chaos, je trouve ça. Il y a une sonorité qui se ressemble et finalement, il y a une analogie et tu as fait le tour de la question. Alors, je te propose de faire une pause. On se retrouve juste après. On va parler de vidéo de Kundalini. Et puis, le temps de boire un petit verre d'eau parce que t'as un débit fabuleux. Mais
un bon petit café
parce qu'il est tôt, effectivement, au Québec. Et on se retrouve dans deux minutes. À tout de suite.
Yves Carra sur BTLV.
Alors, Mister Mathieu, on en a des choses le site. On a d'abord des vidéos fantastiques en boutique. Ça marche très, très bien, celle de pyramides. Ça fonctionne très, très bien. Écoutez tout ce qu'on vous propose.
BTLV, c'est sur l'onglet boutique, l'occasion de commander les vidéos du château de Fougeray, de Brocéliande, de Rennes-le-Château et des rencontres du mystère et de l'inexpliqué 1 et 2.
Voilà, toutes les vidéos que vous pouvez avoir sur le site. Et puis, on vous en parle beaucoup, mais c'est une idée qui nous tient à cœur, une idée de Bob, et qu'on va porter jusqu'au bout, parce que c'est pour vous retrouver, vous rencontrer, c'est Kundalini.
KundaliniPeople.net, le premier site de rencontre entre personnes éveillées. Amitié, partage, amour, rencontrez enfin des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur kundalinipeople.net ou directement sur btlv.fr.
N'hésitez pas à vous préinscrire et lancement d'ici la fin de l'année.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Le terrain de jeu de Richard Glenn que nous retrouvons. C'est vrai que c'est un jeu tout ça. Tu sais, je dis souvent à mes enfants parce que ils me disent, toi, tu prends rien au sérieux, papa. Parce que c'est vrai que je tourne tout un petit peu en dérision. Je dis, je prends rien au sérieux parce que la vie n'est pas sérieuse. Si on regarde tout
ce qui se passe, c'est génial.
Ben ouais.
Parce que c'est ça, il faut. Moi, je veux te dire, je m'amuse depuis 40 ans.
Mm-hmm. Ah ouais, mais on l'entend.
J'ai quitté le monde du journalisme à Ottawa. J'ai été journaliste pour le journal francophone de l'Ontario, une province anglophone. Et à Ottawa, c'est la capitale du Canada. Et j'étais journaliste là. Et j'ai quitté et finalement, vois-tu, je m'amuse. Et je m'amuse depuis 40 ans.
Ben oui, je crois que c'est la seule solution de rester éveillé dans le sens étonné et de garder cette jeunesse d'esprit, cette souplesse d'esprit.
Et en santé, mon frère. En santé de l'esprit, autant que du corps, sain. Être sain, une âme saine dans un corps sain, tu sais, mais quand on dit sain, c'est à trois niveaux, là. Et c'est exact. Alors, si on veut terminer notre petite rencontre d'aujourd'hui...
Oui, entre le Tao et le Chaos, cette analogie était vraiment fantastique, quoi.
Et là, maintenant, on s'en va dans une... Ça, c'est pour parler des modes de société. On a parlé des chasseurs cueilleurs, après ça, du mode pyramidal de la théocratie, après ça, l'anarchie close jusqu'à la démocratie et tout. Après ça, là, on est dans l'étape de chaos, et le chaos ordique qui a été créé, le mot a été créé par l'inventeur de la carte Visa, et de chaos ordique, de chaos vers l'ordre, on arrive au chaos, et là, on arrive à une nouvelle forme de société qui nous amène sur le pas du phénomène extraterrestre et de la rencontre avec ces êtres qui rencontrent des humains. On ne sait pas pourquoi ils rencontrent certaines personnes plutôt que d'autres. D'autres vivent une expérience traumatisante et d'autres vivent une expérience enrichissante. J'ai rencontré, j'ai fait une entrevue de 2 heures avec Nassim Al-Ramaim. Et on a abordé le phénomène extraterrestre, chose qu'il n'avait jamais osé dire en public. Alors, je souhaite à Bob d'avoir une rencontre avec Nassim, qui est formidable. Et là, on arrive dans la dernière phase de notre civilisation humaine, qui va être la phase Wiki.
Wikiki!
Wikiki, ben oui, Wikipédia.
Ah oui, d'accord.
Wiki, oui, alors Wiki, qui est un mot hawaïen, puis d'ailleurs, Nassim vit à Hawaï avec sa famille. C'est ça. On est dans la société du Wiki. Et le Wiki, c'est la société de réseautage.
Partage de connaissances et réseautage.
Oui, c'est ça. Partage des connaissances, réseautage, rapidité. D'ailleurs, le premier qui avait inventé l'Internet, il voulait l'appeler Wiki Web.
Ah oui, d'accord.
au lieu de www, World Wide Web, qui est aussi www, il voulait faire wiki web, en voulant dire le wiki rapide, wiki rendez-vous, Carrefour, et web, le web, c'est comme la toile d'araignée, hein, une toile qui est un filet, qui est un filet, qui est exactement le principe d'un réseau. Le réseau, c'est les mailles, tout est interrelié. Et c'est notre société d'aujourd'hui qui va être en rapport avec le phénomène extraterrestre. Qui sont ceux qui sont contactés? Ce sont ceux qui ont un rapport avec ces êtres-là, de quelque nature que ce soit, qui vont communiquer leurs informations, leurs expériences aux autres qui n'ont pas été contactés. Et tous et chacun partagent. Et à la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident, la connaissance et l'expérience de chacun vont être transmises. Et là, ça va demander à chaque individu d'avoir beaucoup de discernement, de maturité pour être capable de saisir et de prendre la balle au bon quand ça lui convient et de laisser passer au prochain ou au suivant quand ça ne lui convient pas. Et on arrive dans cette société du wiki. Alors, c'était un drôle de cheminement qu'on vient de faire encore une fois, Yves, ensemble. Mm-hmm. Mais le phénomène extraterrestre est là, a toujours été là. Il nous accompagnait dans l'époque où on avait des pharaons en Égypte. Il nous a accompagnés à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Il nous a accompagnés avec certains grands maîtres de différentes époques. Mm-hmm. Et là, j'ai eu un contact avec Nassim Haramein, qui, lui, est en train de, par les contacts qu'il a eus, mettre le doigt sur l'antigravitation.
Ah oui?
Alors, on a eu trois grands personnages dans notre civilisation scientifique moderne. C'était Albert Einstein. Einstein, lui, il travaillait sur les plans de... il ne faut pas que je m'échappe. Sur les plans du magnétisme. Égale MC2. La vitesse de la lumière. La lumière qui est une onde, c'est magnétique. Les champs magnétiques.
La gravité, bien sûr, oui, tout à fait.
Nikola Tesla, qui lui a travaillé sur les champs électriques, l'électricité, le courant alternatif, Nikola Tesla. Et Nassim Haramein travaille sur le plan gravitationnel. Ce sont les trois grandes forces de notre réalité, hein, électromagnétique et gravitationnelle. La loi des trois doigts. Quand tu prends tes trois doigts, là, tu mets à angle droit les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire le pouce par en l'air, en vertical. Sur l'horizontale, tu mets les deux autres doigts, l'index et le majeur, qui vont être à 90 degrés l'un de l'autre. Et pour les électriciens, ils connaissent très bien la loi des trois doigts qu'on appelle, qui veut dire que tu as un champ électrique qui va dans une direction, tu as un champ magnétique qui entoure le fil électrique, qui va donc à 90 degrés par rapport à la direction du fil de cuivre. Et tu as le pouce qui va représenter le déplacement de la force, le mouvement, le déplacement qui va aller à l'encontre de la force gravitationnelle. Et alors, on a nos trois savants qui ont tous les trois avoué avoir eu des contacts avec des êtres de l'espace, ce qu'on appelle des extraterrestres dans le langage populaire.
Ah oui.
Mais alors, les trois, celui qui en a le plus parlé, ça a été Nikola Tesla. Ils ont le considéré comme complètement farfelu, fou. Il était en contact avec des Vénusiens, disait-il, et il a laissé des appareils qui lui permettaient même d'être en contact avec ces êtres-là. À Arthur Matthews, qui était ici au Québec, et on a fait des reportages, nous, il est décédé il y a déjà quelques années, et Arthur Matthews avait un instrument. Moi-même, mon propre garçon, Stéphane, est entré dans la maison d'Arthur Matthews pour aller aux toilettes. Bon. Et là, à un moment donné, juste avant de sortir, il a entendu du bruit dans une boîte, comme une boîte de cigares. C'est un bois très, très fin. Il entendait des voix, des paroles dans ça. Alors, il a ouvert la boîte de cigares et à l'intérieur, il n'y avait que des roches, des cristaux. Puis il dit, il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de haut-parleur. Il entendait des voix dans cette fameuse boîte chez Arthur Matthews, qui est le fils spirituel de Nikola Tesla. Et Nikola Tesla, ben, on le sait. Albert Einstein, souvent, sa bonne allait lui porter un lunch à l'heure du dîner, à l'heure du midi, pour qu'il mange. Albert Einstein travaillait dans ses bureaux au deuxième étage et puis elle frappait à la porte. Mais juste avant, elle entendait Albert Einstein parler avec quelqu'un. Il y avait du monde qui lui parlait. Alors, elle frappait et elle lui disait à un moment donné, oui, entrez. Puis là, elle entrait, elle regardait partout. Juste Albert Einstein, il n'y avait personne avec qui, il n'y avait pas d'interlocuteur. Alors, avec qui parlait-il? Albert Einstein a déjà dit, les chapeaux volantes sont des vaisseaux utilisé par un peuple d'humains qui a quitté la Terre il y a de ça 20 000 ans. Mm-hmm. Albert Einstein est en contact. Et là, maintenant, c'est Nassim Haramein. Et je pense que vous aurez l'occasion sûrement de l'avoir comme invité. Hein.
Oui, ce serait pas mal. Il faudrait qu'il parle français, parce que c'est vrai que la traduction
il
sur une heure...
Il parle très bien français.
Il parle très bien français. Ah bon, très bien.
Ah oui, oui, lui, il est né en Suisse. D'un père perse.
D'accord.
Aujourd'hui.
Bon, on va faire
et
nécessaire.
D'une mère italienne. Il vit à Hawaï. Il voyage à travers le monde. Il a été connecté lorsqu'il vivait à Montréal, ici au Québec. Toute son enfance, il l'a passé ici à Montréal, de l'âge de 3 ans à l'âge de 15 ans. Il était à Montréal. Il était dans un autobus scolaire sur le boulevard Desqueries à Montréal lorsqu'il a eu une illumination. Il était déjà visité depuis longtemps chez lui, dans sa maison, ici à Montréal. Et tout ça lui a induit des connaissances et il est devenu obsédé par ses connaissances scientifiques. Il a étudié par lui-même, autodidacte, à gauche, à droite. Il est devenu auditeur libre dans des universités.
D'accord.
Il n'a jamais été chercher son diplôme de PhD, mais... Un peu comme Albert Einstein qui n'a jamais eu son PhD. Là. Il n'y a pas de diplôme universitaire, Albert Einstein. Là. C'est pas un physicien reconnu par les docs de l'université. Pas plus que le Christ était baptisé catholique. Hein.
Pas plus que Pasteur n'était médecin, d'ailleurs.
Ben voilà. Mais Pasteur, je pense que c'était pas le bon Pasteur qu'on pense. Hein. J'espère que tu connais l'histoire de Béchamp et Pasteur.
Mm-hmm.
Bon. Fait que Pasteur, oui. On fait inoculer tout le monde. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Oui,
on l'ouvrira.
Si tu m'ouvres une porte sur ce domaine-là, je te dirais, rendez-vous prochaine fois. On parle de tous ces scandales qui existent dans la société d'aujourd'hui.
Oui, ce serait pas mal, ça.
On se bande les yeux, on veut rien savoir de ça. Mais il y en a tellement à dire. Ça, c'est tout un autre monde. Parce qu'en effet, on est un peu comme, on disait tantôt, là, des petits animaux là dans un zoo ou dans un enclos. Et on est contrôlé par des extraterrestres, oui, d'une certaine façon. On n'est pas plus libre de nos déplacements qu'une plante dans son jardin qui est soumise au bon vouloir de son jardinier qui vient en recueillir ou en éliminer, comme un jardinier fait dans son jardin. Alors, ces extraterrestres observent l'humanité, peuvent intervenir, car ils ont tous les droits. Comme nous, l'être humain, on a, semble-t-il, tous les droits sur les animaux ou les plantes.
Ouais. Et tu me disais, Richard, déjà dans la première émission, qu'on va être absorbé par cette spiritualité, puisqu'on est beaucoup dans l'ésotérisme, là, dans cette deuxième partie. Et tu disais, quand on aime une chose, on veut la manger. Hein, on parlait effectivement de ce jardin. Et on va être absorbé par cette spiritualité. De quelle façon?
Parce que notre âme... qui est notre mode vital, hein. L'animus, c'est l'âme. La vie dans la matière, c'est l'âme. Il y a une âme dans les végétaux, il y a une âme dans
les animaux. Bien sûr, bien sûr.
Il y a une âme dans l'être humain. Eux arrivent à un niveau où l'âme est le pont entre la matière et l'esprit. Et les êtres de pure spiritualité qu'on appelle les anges et les cœurs des anges avec les différents niveaux n'ont pas de corps matériel. Ils peuvent emprunter un corps matériel. Ils peuvent faire ce qu'on appellera une incorporation, mais c'est l'âme qui est un modus de vie. Et ils veulent ces êtres qui sont entre des êtres purs, spirituels et matériels. Il y a des êtres, à certains niveaux, qui veulent obtenir l'immortalité. Et le premier principe de la vie, c'est l'âme. Alors, ils veulent s'accaparer d'une âme qu'ils vont pouvoir garder et leur permettre de survivre un cycle normal dans la nature, tout naît, grandit, vieillit, et périt et meurt. Et il voudrait s'accaparer ce principe vital pour maintenir l'immortalité. Ça, c'est un fantasme épouvantable qui est utilisé par des extraterrestres qui font marcher des autorités politiques, militaires dans notre monde, et même scientifiques, en leur promettant l'immortalité. Mais... ça, c'est tout un dossier dans lequel on pourrait s'engager dans une prochaine rencontre. Mm-hmm. Si toi, t'es intéressé, Yves.
Ouais, pourquoi
parce
pas,
qu'on
oui.
On va parler des niveaux d'âme, on va parler des niveaux de vibratoires. L'atome mental, ça dit quelque chose.
La quoi, là?
L'atome mental.
L'atome mental.
L'atome mental,
ah,
oui. Celui qui est ton son de ton atome mental. celui qui est adombré, celui qui est... Ben, le Merkaba, ça dit quelque chose?
Ben non, non, non.
Ah, ben écoute, on aura... Alors, si ça te plaît, moi, ça me plaît être avec toi pour nos entretiens. Si Bob s'ennuie de moi, ben à ce moment-là, on peut faire moitié-moitié.
On fera moitié-moitié, d'accord.
Une demi-heure avec l'autre.
On se partage. Lui, il prendra Richard et moi, je prendrai Glenn.
Ah, OK, OK. Ben oui, c'est ça, oui. Ben, c'est ça. La démarche ésotérique que je fais depuis 40 ans, ça me permet maintenant de me dire, j'en ai vu, j'en ai entendu, je les ai tous rencontrés, il me manquait seulement le pape. Et ça passe un feu que j'ai une entrevue avec le pape. Mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même tous, à peu près tous, au même niveau. On est tous des êtres humains. On cherche avec notre cerveau à comprendre les choses. On a des contacts qui font bien, qui vont mal, qui vont... des atomes crochus avec certaines personnes. On a des bons échanges. On a une communication qui fonctionne. Et on arrive à l'époque du wiki. Le wiki, c'est-à-dire les réseaux. Et comme on faisait ensemble et comme on a fait encore aujourd'hui, c'est un échange d'informations. Moi, je suis là qui parle beaucoup, mais t'interviens et c'est pas comme si t'es juste comme un enquêteur qui me pose des questions. Tu passes toi aussi tes réflexions. C'est ça le principe du wiki qui s'en vient, le réseau.
D'accord,
et
Bob, oui, c'est pas...
Bob donne, ouais. donne l'opportunité de faire des échanges d'informations. C'est ça l'avenir, c'est l'avenir de notre société, c'est une société d'échanges. On aura fini d'avoir de la monnaie qui domine, parce qu'actuellement, tout va mal sur la Terre, on dit souvent, c'est pour des problèmes d'argent. C'est-tu ridicule d'avoir tout mis notre valeur dans de l'argent? Alors qu'on est tous en santé, on est tous intelligents, on est tous capables de se relever les manches et d'agir. On n'a pas besoin d'attendre après de l'argent pour faire des choses. Alors, le wiki va faire que nos jeunes vont faire basculer la société avec les valeurs anciennes. Alors, on a fini, on passe à travers le chaos, là. C'est le chaos. Et avec un oméga, on va entrer dans un nouvel alpha, une nouvelle société et un contact avec des êtres qui ne veulent pas nous dominer. Ces êtres cosmiques avec lesquels on aurait intérêt à avoir des contacts fréquents.
Ouais.
Il faut qu'on arrête de vouloir à genoux attendre la solution qui viendrait d'en haut. Il faut se relever les manches. Il ne faut pas miser sur de l'argent ou miser sur des dieux ou miser sur des extraterrestres. Il faut créer le réseau, se tenir ensemble main par la main.
Mmh. Transfert d'informations, ouais. L'échange d'informations... c'est ce qui fait la richesse, effectivement, d'une civilisation et d'une personne. On dit les voyages forment la jeunesse, hein, mais c'était simplement parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on reste jeune, d'ailleurs, font rester jeune, parce que cet échange d'informations, ben, on nourrit. Déjà, avec l'information, avec la rencontre de l'autre, on a moins peur de l'autre, parce que la peur, c'est quand on ne connaît pas. Et dès qu'on connaît quelqu'un, même si on avait un a priori négatif, ben, on le trouve tout de suite plus sympathique, ou alors on le fuit complètement. Donc c'est vrai que si on rentre dans cette société-là, et avec Internet, on est vraiment dans le village global, on y va tout doucement. Alors cet échange d'informations, on ne sait pas jusqu'où ça nous mènera, mais en tout cas, c'est inévitable.
Une société wiki.
Ouais, oui, une société wiki, ouais.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Ben oui, ben on se parle, on est au début de votre nouvelle saison ici à BTLV. Ben il fallait bien que j'arrive avec quelque chose d'original. Alors, on va appeler ça la société Wiki. Et vous en faites partie, vous êtes mondialement entendu, on est en réseau. Moi, j'ai ma production, mon émission, mon site. Vous avez la vôtre et puis on fait des échanges, on partage ensemble. On n'essaie pas d'imposer notre vérité à l'autre par le respect et par le plaisir de la différence de chacun. C'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va... On va, j'allais dire, pour rester dans la métaphore du jardin, c'est comme ça qu'on va fleurir.
Ouais, tu sais, il y a dans un pays dont le nom ne me revient pas tout de suite, mais ça va revenir, le bonheur intérieur brut. C'est
le Bhoutan.
Le Bhoutan, voilà, merci, le Bhoutan, le bonheur intérieur brut. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et puis, tu sais, ce qu'il y a d'important aussi, et on le retrouve beaucoup dans les sociétés, je trouve, asiatiques, hein, tout n'est pas parfait chez eux, mais c'est l'absence de jugement de la pensée de l'autre. Il pense ce qu'il veut, dans la mesure où il n'y a pas d'agressivité développée, dans la mesure où il n'y a pas de prosélytisme. Mais s'il pense quelque chose de différent, Voilà, tous les intervenants et tu en fais partie ont une vision des choses. Certaines personnes peuvent se dire ah, mais c'est complètement fou. Mais faut pas dire c'est faux, c'est nul. Il faut pas qu'ils parlent. Voilà, on a le droit d'échanger, on a le droit de dire. Faut pas être dans le jugement. Sinon, quand on juge, on voit quelqu'un dans la rue qui est moche, on dit il est moche, il a pas le droit de se mettre en maillot de bain, il est trop gros, lui il boite. Pourquoi il sort? Parce que c'est moche dans la rue. Quand on n'est pas dans le jugement, on commence à être dans la bienveillance et dans le vrai partage. Je sais pas ce que t'en penses, mais je le sens un peu comme ça. Si on va dans cette direction avec la société qui se dessine, ce serait pas mal.
Oui, la société Wiki. Et on pourrait reprendre la phrase du Christ qui disait « On jugera l'arbre à ses fruits ». Alors, laissons-le exprimer ce qu'il dit. Laissons-le vivre de la façon dont il pense. On verra avec le temps. Et le temps nous donnera raison ou tort à quelqu'un, ou lui-même reconnaîtra qu'il était mieux de changer de comportement ou d'opinion pour être heureux. Comme tu disais, le bonheur, finalement, c'est ça qui est la clé.
Mm-hmm.
Ben oui. Ah, c'était merveilleux, encore une belle rencontre, Yves. Moi,
c'était une belle heure.
Tu te demandais où je m'en allais avec tout ça, mais il y a une cohérence derrière tout ça, hein.
Ouais, tout à fait. Je dis le titre étant si la Terre était comme un jardin organisé par des extraterrestres, mais tout est lié. On y revient. Et moi, je te rejoins un petit peu dans lorsque tu as dit c'est un sentiment qui n'est que personnel. Hein, mais je sais pas. Plus je réfléchis à ça et plus on essaie de sortir de ce qui semble prédestiné pour nous, plus ça semble compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression effectivement que on ne peut s'épanouir que dans un certain contexte. Je parle de chaque homme. Comme une plante, on en revient à ce que tu disais. Voilà, une plante qui est prédestinée à pousser dans un sable sablonneux, à l'ombre et non pas au soleil, et avec un peu d'eau, mais pas trop. Si on la met ailleurs, elle va mourir. Faut la mettre là. Sa place, elle est là. J'ai l'impression que les hommes, c'est comme ça. On a des qualités, des défauts, un poids, une grandeur, une taille, machin, etc., une couleur de peau, de visage, un caractère qui fait que on s'épanouira à tel endroit et pas à un autre. Si on nous met ailleurs, on mourra, et surtout on sera utile à l'écosystème, ici et pas ailleurs. Là, je te rejoins dans l'idée du jardin, si tu veux.
Et en plus, on doit savoir que les règnes inférieurs, hein, le minéral, végétal, animal, hominal, l'être humain, l'extraterrestre au-dessus, on doit toujours être capable de comprendre qu'on a besoin des règne inférieur. Si on veut avoir besoin dans notre système, on a besoin dans notre biologie du fer. Ben, on ira manger un végétal comme des épinards, contient beaucoup de fer. Parce que si on veut essayer d'avoir du fer dans nos cellules en suçant des clous,
ça
ne rentrera pas. Alors le végétal a fait le travail pour nous. Et de la même manière, nous, l'être humain, on fait du travail pour des extraterrestres qui nous observent et qui profitent de l'expérience de l'être humain qui, dans notre âme, va permettre de nourrir leur esprit par le niveau que nous, on a acquis, on a digéré. Alors, ces êtres-là regardent souvent l'être humain lorsqu'ils enlèvent ou font des enlèvements, mais pas des kidnappings, mais on appelle ça des abductions. D'autres vont dire c'est des ravissements parce qu'ils sont ravis, comme un ravisseur qui vient ravir quelqu'un. Mais quand on est ravi, habituellement, c'est positif, là, c'est agréable d'être ravi.
C'est vrai.
Alors, ces abductions, ces ravissements font que des gens disent, ils observent l'être humain dans son comportement émotionnel, la femme qui s'occupe de son bébé, de son enfant. Eux connaissent pas ça. Alors, pour ceux qui ont été contactés par cette catégorie d'êtres, parce que j'ai dépeint au début de notre entretien aujourd'hui, il y a beaucoup de catégories d'êtres extraterrestres, comme il y a beaucoup de catégories de plantes et d'êtres humains, de races. Ben oui, alors ça fait partie d'un grand mélange de tout, mais arrive le moment de la rencontre de tous, pas sur le principe d'une pyramide avec une autorité qui domine sur les autres d'en haut, mais en réseau. Tout le monde se tient par la main dans les différences, dans les ressemblances.
Voilà.
Et tout ça, c'est le fameux réseau. La société de demain, c'est le système Wiki.
Wiki, société Wiki. Ça, on retiendra ça de ton intervention, Richard. La société Wiki, la société d'échange et de partage. C'est vrai qu'on y va. Mais Wiki, et tu vois, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Wikileaks, tout ça, les étymologies de chaque mot qui sont employés. Il n'y a pas de hasard. Wiki, Wikileaks, regarde, Wikipédia, on est dans la société Wiki.
Oui, exactement.
C'est bien.
Richard,
c'est déjà passé, l'heure est déjà passée, tu te rends compte, hein? Bon, merci beaucoup. On se retrouve chaque mois toute cette nouvelle saison sur BTLV, évidemment, Richard. Et puis, oui. Salut bien nos cousins québécois.
Je ne manquais pas le complément surprenant, le complément qui vient apporter des liens, des photos, des textes à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui,
Yves. OK, super. Et puis, on va faire le nécessaire pour inviter Nassine Haramein, parce que je pense qu'effectivement, il y a de belles choses à dire sur BTLV. Merci Richard, à bientôt.
Merci, au revoir.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.